Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Zap. Et donc, on va retrouver Eric Salio. Eric,
oui,
on
bonjour,
veut des nouvelles d'Arthur Fils qui n'a pas joué depuis son abandon à Rome il y a 16 jours, ouais. Alors que Roland Garros démarre ce week-end.
Écoutez, j'ai fait chou blanc. C'est-à-dire que je suis allé à Jean-Bouin. Et il avait déjà quitté le practice. Et d'après mes informations, il n'a même pas sorti ses raquettes. Alors, peut-être pas s'alarmer, mais en tout cas, j'ai rencontré des confrères d'un quotidien sportif qui, eux, donc, ont poireauté pour rien aussi. Ils m'ont dit, apparemment, il était souriant. Et en tout cas, l'autre info qui est vraiment, qui vient de chez nous, d'RMC, Léna Marjac, qui habite dans le coin, visiblement, a vu Arthur Fils à 15h30 prendre, donc, monter dans une voiture de l'organisation. Quelle destination? Je n'en sais rien, mais en tout cas, personne n'a vu Arthur Fils taper la balle à Roland. Il y a peut-être une solution alternative, c'est qu'au CNE, ils ont installé deux cours en terre battue. Et ça, c'est une zone qui est totalement interdite aux journalistes. Donc peut-être qu'ils se testent, si je puis dire, sur les cours en terre battue du CNE, à l'abri des regards. Mais pour l'instant, c'est un mystère total.
Ouais, on est obligé de spéculer, donc on va rester très prudent. Ouais, mais s'il n'y avait pas de souci, il n'y a pas de raison à se cacher pour s'entraîner, non ?
Je suis d'accord avec vous. Alors peut-être qu'il va taper la balle ce soir très tard sur le central. Ça avait été le cas l'an passé, je m'en souviens très bien. Il avait fait rouvrir le stade à 21h le lundi soir. Peut-être qu'il veut vraiment se préparer à l'abri des regards, c'est le cas de le dire. Mais pour l'instant, oui, on est à la veille du tirage au sort. Et j'espère qu'on n'aura pas une mauvaise nouvelle ce soir sous la forme d'un communiqué.
Non.
Vous voyez ce que je veux dire.
Il va attendre au moins le dernier moment. Si...
Oui, j'espère.
Sinon,
ouais. ce qui est étonnant, c'est comme tu le dis, c'est qu'il n'ait pas au moins tapé la balle. C'est... taper la balle au regard des journalistes sans leur parler, ça va rien changer. C'est au moins se rassurer physiquement. C'est étonnant qu'il soit allé pour ne rien faire finalement.
Peut-être que c'était juste une séance de stretching ou un truc comme ça.
T'as pas besoin d'aller à Roland pour faire le stretching. Ouais.
Dis-moi, Eric, est-ce que depuis Rome, on sait si c'était le dos ou la hanche au final, puisqu'il y avait quand même un léger doute là-dessus.
Tu me parles à moi, c'est là,
Hichem. Oui.
On sait pas, ça n'a pas été éclairci.
Bah, mais non, mais tu sais, ça, il y a juste eu quelques lignes sur le compte Twitter et Instagram d'Arthur Fils en disant que tout était clair. Mais on n'en sait pas plus. Moi, je l'ai vu en vrai, Arthur, hier, puisqu'il est venu supporter son pote Sean Quenin qui jouait les qualifs sur le Co-14. Voilà, je l'ai vu. Mais je l'ai vu en spectateur.
Non, il avait une béquille. Là, tu m'as dit, il a une béquille. Mais aujourd'hui, ça
c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire.
Oui.
Non, il était là, quoi, tu vois.
Si tu viens supporter ton pote, c'est que t'es dans les bonnes dispositions.
Voilà.
Si t'es la tête dans le seau, que tu sais pas si tu vas être blessé, si tu passes ton temps en soins à te reposer, tu viens pas, je pense.
Bon. En attendant, on peut pas dire qu'il s'est entraîné et que tout est normal. Voilà. Il n'y a pas trop de matière à s'alarmer, mais on reste vigilant. Donc, évidemment, tu vas continuer de suivre le planning d'Arthur Fils.
Loïs Boisson est arrivé à Roland, elle va taper à Jean-Bouin. Et Gaël, mon fils, est sur le cours central. Il tape avec son épouse, Elina Svitolina.
Très bien.
Voilà.
Merci Eric.
Merci Eric. J'ai mené l'enquête, mais là, j'ai pas grand chose. Hein.
Pas terrible.
C'est pas pointu tout ça quand même. C'est pas Sherlock Holmes, c'est quand même. J'étais habitué à bien. Bon, c'est pas grave.
Merci Eric.
C'est la deuxième dive des journalistes.
Il a quand même gagné le tournoi de la presse.
Ah mince, c'est
alors, j'ai oublié.
Il remonte.
Au Giro, 11e étape aujourd'hui entre Porcari et Chiavari, 195 km, avec peut-être un petit doute sur Jonas Vingegaard. Le Danois était censé gagner le Giro sans opposition. Hier, il a fait un mauvais chrono, un mauvais contre-la-montre. Il n'a pas encore repris le maillot rose, même s'il est deuxième à 27 secondes d'Afonso Eulalio. Est-ce que tu t'attendais à mieux, Jérôme ?
On s'attendait forcément à mieux. On avait une certitude, c'est qu'il ne battrait pas Filippo Ganna, l'Italien ultra spécialiste du contre-la-montre, qui en plus est chez lui, qui a préparé ce chrono tout plat, 42 km aller-retour sur la même route. C'était pas un terrain pour Jonas Vingegaard. Après, de là à ce qu'il soit 12e seulement, battu par des Ben O'Connor, par des Tim Enarensman, on l'attendait plutôt sur le podium de ce contre-la-montre. C'est pas rassurant pour le Danois. Il a été l'an dernier sur la Vuelta aussi un peu en difficulté sur ce genre de chrono. Heureusement, je dirais que la concurrence pour le classement général n'a pas été exceptionnelle, notamment Félix Gall, l'Autrichien de l'équipe Decathlon CMA-CGM, qui a pas fait un très bon chrono non plus, mais par exemple des garçons comme Giulio Pellizzari, le très jeune Italien, un peu malade en milieu de semaine, lui a bien défendu, a perdu moins de 20 secondes par rapport aux Danois. Donc on va pas tirer le signal d'alarme parce qu'il a la marge par rapport aux autres. En revanche, ce type de chrono et ce type de performance ne nous laisse pas présager qu'il soit dans une forme exceptionnelle. En témoignent d'abord ses deux premières performances en montagne. Au Blockhaus, il a gagné certes, mais il n'a pas écrasé la course. Et la dernière étape de montagne, la semaine passée, il a largement profité des efforts de Félix Gall pour venir lui chipper 10 à 12 secondes sur la deuxième arrivée en altitude. Le Danois n'est pas aussi impérial qu'on pouvait l'imaginer.
La distance du Tour d'Italie, c'est la même que...
À peu près la même. Au Tour d'Italie, il y a des étapes beaucoup plus longues.
Et en montagne ? Sur la montagne,
c'est très montagneux au niveau au niveau du dénivelé positif. Je pense qu'il y a beaucoup plus de dénivelé en Italie que sur le Tour de France.
Ah bon, c'est quand même curieux.
Ouais, parce que le Tour d'Italie est historiquement difficile sur chacune des régions en Italie. Eric, vous connaissez l'Italie comme moi, c'est partout tu peux faire une arrivée au sommet quasiment. La topographie du terrain, l'état de l'Italie est tellement différente par rapport à la France que tu peux faire une arrivée. Aujourd'hui, ils arrivent bord de mer et pourtant à Chiavari, ils vont trouver un talus quoi.
Le contre-la-montre en pédalo à Venise, il est magnifique le contre-la-montre.
Jérôme, j'ai pas l'impression que quand on voit nos étapes des Pyrénées et des Alpes. J'ai pas l'impression qu'en Italie, il y a ces étapes-là.
Ah si, clair, tu vas voir sur la dernière semaine, notamment dans les Alpes et dans les Dolomites. Pour avoir fait le Tour d'Italie plusieurs fois, j'ai toujours trouvé que le parcours était plus difficile que celui du Tour de France. Le niveau est moins élevé.
Et juste pour revenir à Vingegaard, on l'imaginait dans une grande forme, notamment en vue du Tour.
Alors Pierrot, c'est l'interrogation.
Copie là-dessus ou pas ?
Pierrot, c'est l'interrogation. C'est est-ce que il a préparé ce Giro avec une forme qui ira crescendo pour finir fort et enchaîner sur le Tour. Et donc, ce qui expliquerait qu'en ce moment, il ne soit pas, on va dire, dans la plus grande des formes et le plus dominateur. La problématique, c'est comment gérer une première semaine de Giro qui vient de gérer sans être trop fort. Tu tapes dans les réserves et t'es moins fort. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'il allait écraser les 10 premiers jours de course pour être tranquille et finir comme l'a fait Pogacar il y a 2 ans lors de son doublé, l'année dernière lors de son doublé, où il a fini, il mettait des tartines à tout le monde, mais... tranquille, la dernière semaine, il n'a pas surdominé. En revanche, si c'est cela, je me demande comment va faire Jonas Vingegaard par la suite, et notamment autour de... C'est pas rassurant ce qui s'est passé hier sur le chrono. Maintenant, on peut être un jour moins bien. Mmh. Et sur un chrono 42 bornes à plat pour un grimpeur, un jour moins bien, tu perds du temps.
Jérôme, justement, c'est dans le vélo, on peut pas à 3 semaines d'intervalle ou à 1 mois d'intervalle ou à 2 mois d'intervalle d'avoir des pics de forme et de les prévoir ces pics de forme là et d'être un peu moins bien, puis d'un coup un mois après tu es en pleine bourre.
Mais en plus, si tu veux, Eric, déjà, dans le vélo et comme partout, toi dans la vie de tous les jours, sur 3 semaines, on a pas tous la même forme. La programmation, Eric, dans sa pour Vingegaard sur l'enchaînement de Giro Tour, je pense qu'il a quand même prévu d'avoir le pic sur le Tour et de se servir de ce Giro pour arriver à cet état de forme. Ce qu'il a fait cette année, c'est ce qu'il a constaté l'an dernier sur la Vuelta. A priori, ses data analystes nous ont dit qu'il était encore plus fort sur la Vuelta que sur le Tour.
Alors on passe à la Coupe de France dans le Mosca Zap et on retrouve à Nice Maxime Tilliette. Salut Maxime.
Salut Maxime.
Salut Pierre, salut le SMS.
Alors Nice qui vit une semaine surréaliste puisqu'on prépare une finale de Coupe de France, ça devrait être une fête, ce n'est que crispation. Et d'ailleurs, Maxime, en cas de victoire, si jamais Nice balance, eh bien il n'y aura pas de célébration pour cette Coupe de France.
Et ouais, la finale est donc après-demain, vendredi. Le maintien en Ligue 1, vous le savez, n'est pas acté. Donc il y a encore ces barrages à jouer. Et le match aller sera mardi à Saint-Etienne. Donc voilà, la ville et le club ont décidé que les célébrations prévues samedi en cas de victoire face à Lens sont annulées. Les joueurs devaient alors remonter la promenade des Anglais en bus avec une scène installée pour présenter le trophée aux Niçois à l'arrivée. Mais même en cas de sacre, voilà, vendredi, on sait qu'il y a ces deux rendez-vous cruciaux derrière. Alors le club réfléchit à d'autres options pour permettre aux supporters du gym d'approcher cet éventuel trophée, mais ce sera une fois les barrages contre Saint-Etienne terminés, et donc très probablement sans les joueurs.
Ça, c'est le problème des villes de gauche. Hein. Après, les mecs ont peur de tout. Les mecs ont peur de tout, tu vois. Le problème,
c'est terrible.
Ciotti, trois gauches, moi, je dis.
C'est terrible. Tu sais pas quoi. Quelle est la bonne solution?
Non, mais c'est pénible, quoi. Moi, que personne n'arrive à rien faire, ça gonfle. Au bout d'un moment, les mecs se font envahir le stade.
Non, mais
c'est
attends, c'est incroyable. La réflexion, elle est avant tout sportive.
Oui,
je crois,
hein. C'est pour pas se griller avant le barrage.
Je comprends pas la mentalité des
Moi, je pense que ça doit plaire à Claude Puel. Claude Puel, il est doué pour ça. Il est fait pour ça. Des missions très compliquées. Ouais, c'est pas un joyeux Claude, hein. Claude. Non, mais il leur dit, oh, les gars, peut-être que.
Ça fait 5 mois qu'il est là. Ouais. La mission, pour l'instant, elle est.
Non, mais Maxime, je pense que lui, ça lui correspond.
Maxime, t'as pas
ça lui correspond de dire, on va pas aller faire la Java si on gagne la coupe, alors qu'on a la survie du club à jouer.
Tu fais pas la Java.
Tu le connais, Claude.
Les joueurs vont pas faire la Java.
En Ligue 2, mais moi, je comprends la décision.
Ça correspond à l'esprit de
la fête avant. Tu vas pas festoyer un titre en Coupe de France alors que dans deux semaines tu peux descendre en Ligue 2. Tu peux pas.
Bien sûr, ouais.
Moi, je pense que tu peux pas.
Un truc sobre,
ouais, sachant que Nice est un club. Avec tout le respect que j'ai pour Metz ou Nantes, mais Nice est pas à sa place. Nice avait de l'ambition.
Nice devait jouer avec des champions cette année.
Et là, ils ont fait une course de déambulateurs. Tu sais, le long de la. Parce qu'il y a quand même à Nice, la promenade des Anglais quand même.
Ça roule avec les deux roues par plus que l'une derrière l'autre.
Merci Maxime, Vincent.
Je préfère Cannes. À Cannes, oui, non, mais moi, c'est un autre niveau. Je suis un star international.
Tu préfères voir Nice ou Saint-Etienne en Ligue 1, toi, dans l'absolu?
Nice.
C'est gentil pour Saint-Etienne.
Mais Nice, c'est
un club historique, Saint-Etienne.
Non, mais oui, c'est un club historique. Je n'ai rien contre Saint-Etienne.
Tu veux choisir lequel sauver.
C'est comme si tu me disais où tu préfères vivre, à Nice ou Saint-Etienne. Bon, mais à Nice,
c'est pas la même question.
Non, mais là, c'est pas la même question.
Et toi, Eric,
mais moi, je pense ça. Mais lui, Saint-Etienne, mais t'as qu'à y aller, Eric, à Saint-Etienne.
Mais on y va pour vivre, pour le foot.
Et si tu vas pour le foot de
supporters, est-ce que tu y es déjà allé à Saint-Etienne?
3-4 fois,
je crois. Il a joué le Forêt, c'est magnifique.
Deux?
Le Forêt.
Ouais.
Allez, c'est pas la Forêt, hein, c'est le Forêt.
C'est le Forêt ou le Forez? On dit pas le Forez, Pirot?
Je sais pas.
Et moi, j'ai joué dans un théâtre. C'était super.
Moi, je disais le Forêt jusque-là, mais merci Pirot.
Très jeune,
Forêt.
Jean-Michel Larquet nous écoute.
Tu es obligé de faire des trucs à 20 balles, des passes à 20 balles. Non, alors qu'à Nice, c'est 60. Tu peux faire 60.